Enjoy Orange, émission jeunesse de découverte sur Studio ZEF. Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver sur Enjoy Orange pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée à l'univers du jeu vidéo. Il sera question donc de comprendre comment le jeu vidéo est devenu une industrie florissante. Au programme de cette émission, une chronique sur l'histoire du jeu vidéo, suivie d'une interview de Madame Montadier du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Après une pause musicale, un portrait de Mario, la célèbre mascotte de Nintendo. Et pour finir, une chronique test sur les Sims 4 sur console. Tout de suite, la chronique sur l'histoire du jeu vidéo. Depuis quelques décennies, le jeu vidéo est devenu une industrie planétaire qui a suscité l'admiration, mais aussi des craintes auprès du grand public. L'histoire du jeu vidéo a commencé dans les années 50 au sein des laboratoires universitaires, puis a connu un succès fulgurant auprès du grand public dès les années 70 pour devenir une industrie planétaire. Retour sur l'incroyable histoire des jeux vidéo. Tout a commencé dans les années 50 aux États-Unis, lorsque des ingénieurs et des chercheurs travaillent sur la recherche d'interactions homme-machine. Le premier à s'intéresser aux jeux vidéo est Ralph Baer, qui imagine alors la première console de jeu, la Brown Box, avec le jeu Chase en 1967. Les premiers jeux vidéo, tels que Oxo en 1952, Tennis for Two en 1958 ou encore Space War en 1962 sur ordinateur ont contribué à l'histoire du jeu vidéo. C'est dans les années 70 que le jeu vidéo se démocratise auprès du grand public avec l'apparition des jeux sur des bornes d'arcade telles que Pong, Space Invader, Donkey Kong ou encore Pac-Man et des premières consoles de jeux telles que l'Odyssée de Magnavox ou encore l'Atari 2600. L'industrie du jeu vidéo connaît une évolution très rapide qui attire des fabricants de jouets tels que Mattel ou encore Coleco et des éditeurs de jeux vidéo tels que Atari, Activision ou encore Electronic Arts. Le marché du jeu vidéo aux États-Unis est saturé et s'effondra en 1983 suite à un crash causé par une offre de jeux supérieure à la demande et une qualité de jeu médiocre. À cette époque, Atari enterre alors des milliers de jeux Pac-Man et E.T. dans une décharge du Nouveau-Mexique qui fut une légende urbaine jusqu'à son excavation en 2014. Beaucoup de gens pensaient à cette époque que c'était la fin du jeu vidéo. Enfin, pas tout à fait. 1985. Le marché des consoles redémarre avec le jeu Super Mario Bros. Sur Famicom au Japon et sur la NES dans le reste du monde. Le jeu connaît un succès immédiat. Plus de 60 millions de consoles vendues à travers le monde. Grâce au succès de la NES, le public se réconcilie avec les jeux vidéo et Nintendo sauve alors l'industrie du jeu vidéo. Le constructeur japonais a appris des erreurs du passé et prend de nouvelles mesures. Mettre en place un contrôle de qualité sur les jeux, limiter le nombre de jeux sortis par an, mais aussi limiter le nombre de consoles sur le marché. Par la suite, Sega, Sony, Microsoft vont appliquer également ces mesures pour leurs jeux et consoles. À cette même époque, les ordinateurs personnels arrivent dans les foyers et connaissent un grand succès grâce aux ordinateurs d'Apple et de Microsoft, mais aussi grâce à l'Atari ST, la Commodore 64 et l'Amiga, et à des jeux avec des graphismes plus élaborés tels que SimCity ou encore Dragon Quest. C'est à partir de ce moment-là que l'on distinguera systématiquement les jeux sur PC et les jeux sur console. Pendant 10 ans, Nintendo et Sega se livrent une guerre marketing pour vendre leurs consoles et conquérir de nouveaux publics. D'un côté, nous avons Nintendo qui domine alors le marché, la NES, la Game Boy ou encore la Super Nintendo avec des jeux comme Zelda, Metroid, Tetris ou encore Super Mario Kart. Et de l'autre côté, Sega avec ses consoles Master System, la Mega Drive et la Game Gear. Et avec des jeux comme Sonic the Hedgehog. 1995, Sony arrive sur le marché des consoles avec sa PlayStation. C'est le premier à penser la console de jeu comme un appareil multimédia avec le lecteur CD, mais aussi à proposer des jeux en 3D pour un public plus adulte tels que Tomb Raider, Final Fantasy VII, Rayman, Gran Turismo, Metal Gear Solid ou encore Resident Evil. En parallèle, Nintendo tente de riposter avec la Nintendo 64 et la Game Boy Color avec des jeux tels que Super Mario 64 ou encore Pokémon Bleu et Rouge. De son côté, Sega fera de même avec la sortie de la Saturn et de la Dreamcast avec des jeux tels que Tekken, Soul Calibur ou encore Street Fighter. Quelques années plus tard, Sega arrête la fabrication de consoles en se consacrant uniquement à la conception de jeux suite à des échecs commerciaux. Parallèlement au marché des consoles, le développement d'Internet dans les années 2000 a favorisé les jeux en réseau à l'échelle planétaire avec des jeux tels que Counter-Strike, World of Warcraft ou encore League of Legends. Le succès est devenu tel que les constructeurs de jeux se lancent à leur tour dans l'aventure des jeux en réseau par le biais de deux plateformes, la Xbox Live et la PlayStation Network, pour toucher un public plus large et favoriser le mode multijoueur. Depuis, des compétitions de jeux vidéo, appelées e-sport, sont organisées à travers le monde dans lesquelles les joueurs s'affrontent seuls ou en équipe. À ce même moment, Sony sort la PS2 avec des jeux comme GTA, FIFA, Need for Speed ou encore Call of Duty. Le succès est immédiat. Plus de 150 millions de consoles vendues à travers le monde et détrône au passage Nintendo de sa place de leader. De plus, Microsoft arrive également sur ce marché très juteux avec sa Xbox en 2002 et des jeux tels que Halo ou encore Fable. De son côté, Nintendo sort la GameCube et des jeux tels que Super Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash ou encore Pikmin, mais qui aura moins de succès que la PS2 et la Xbox. Pour rivaliser avec Sony et Microsoft, Nintendo préfère se concentrer sur l'innovation et notamment en s'intéressant au mouvement avec la sortie des consoles Nintendo DS et la Wii pour attirer de nouveaux publics, les plus jeunes, les femmes et les seniors. Sony et Microsoft feront de même avec la Move et la Kinect, mais qui auront moins de succès que la Wii. Depuis, les constructeurs Sony, Nintendo et Microsoft se livrent une guerre technologique avec la sortie de consoles toujours plus puissantes. Les dernières consoles sorties à ce jour sont la PS4, la Xbox One, la Nintendo Switch et la Nintendo 3DS. L'industrie du jeu vidéo se divise alors en deux catégories. D'un côté, le jeu vidéo indépendant avec des jeux comme Minecraft ou encore Astroneer que l'on retrouve dans des plateformes telles que Steam. Et de l'autre côté, les grands éditeurs tels que Ubisoft, par exemple, et leurs jeux AAA à gros budget tels que Assassin's Creed ou encore Just Dance. Vient ensuite l'arrivée des jeux sur mobile à la fin des années 2000, avec des jeux tels que Angry Birds ou encore Candy Crush, qui connaissent un grand succès auprès du grand public et attirent toujours plus de nouveaux joueurs. Le jeu vidéo n'aura pas fini de nous surprendre avec des consoles et des ordinateurs toujours plus puissants et des jeux toujours aussi beaux et faciles à jouer. Qui sait, peut-être qu'un jour, nos salons deviendront des mondes virtuels. Nous avons été interrogés Anne-Sophie Montadier, responsable communication et marketing du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, à propos des raisons du succès du jeu vidéo en France. Bonjour, Madame Montadier.
Bonjour.
Merci de nous avoir accordé du temps pour cette interview.
Avec plaisir.
Pouvez-vous vous présenter ainsi que le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs ?
Oui, bien sûr. Je suis Anne-Sophie Montadier. Je suis responsable communication et marketing au sein du CEL. Le CEL, c'est donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. On représente 22 adhérents en France. On est l'organisation professionnelle qui représente les constructeurs et éditeurs de jeux vidéo en France, auprès notamment des pouvoirs publics, et également des médias. Et on est également l'organisateur du salon français du jeu vidéo qui s'appelle la Paris Games Week.
Quel regard portez-vous sur l'évolution de l'industrie du jeu vidéo ces 15 dernières années ?
Alors, je porte un regard sur l'évolution de l'industrie du jeu vidéo très positif. Si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, l'histoire du jeu vidéo remonte à peu près aux années 70. Même si on regarde plus récemment, avant le jeu vidéo était considéré comme un loisir souvent réservé aux enfants. Tout début du jeu vidéo d'ailleurs, vous pouviez vous procurer notamment des consoles dans des magasins de jouets. Et on a vu petit à petit le jeu vidéo se démocratiser, s'adresser à une plus large population. Par exemple, je peux vous donner deux, trois chiffres. Si vous regardez juste à l'aube des années 2000, vous aviez 20% de joueurs au sein de la population française. Aujourd'hui, en 2018, on a un Français sur deux qui joue aux jeux vidéo. Et on atteint même 68% de la population qui joue occasionnellement. Donc il y a eu vraiment une évolution très très positive. Pourquoi ? C'est notamment du fait de l'évolution de l'offre faite aux joueurs, avec évidemment le développement de nombreuses plateformes, de nombreuses consoles de jeux vidéo, également l'évolution du jeu sur mobile, et puis aussi la partie PC avec l'avènement de l'e-sport ces dernières années.
Qui sont les principaux joueurs de jeux vidéo ?
Alors aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux vidéo. Il y a une offre qui peut correspondre à chacun. En effet, vous pouvez jouer sur console, vous avez des consoles de salon, vous avez des consoles portables. Vous pouvez jouer également sur mobile, vous pouvez jouer également sur PC. Alors pour votre plaisir, vous pouvez jouer entre amis ou en famille, ou même sous une forme compétitive qu'avec l'e-sport. Donc aujourd'hui, tout le monde est joueur. Si on regarde un petit peu plus près les statistiques, comme je vous disais, aujourd'hui, on a 53% des Français qui jouent aux jeux vidéo. Alors, ce qu'on appelle qui jouent des joueurs, c'est des personnes qui jouent régulièrement. En France, la moyenne d'âge du joueur est de 34 ans. Donc, c'est intéressant de voir que cet âge moyen a évolué au cours des années. On était un âge moyen de 21 ans en l'an 2000. Là, on est à un âge moyen de 34 ans. Donc, ça veut dire que le jeu vidéo se transmet aussi de génération en génération. Et un fait intéressant aussi, aujourd'hui, on a quasiment un joueur sur deux qui est une femme, ce qui est aussi une grosse évolution par rapport à ces 20 dernières années.
J'ai vu récemment que Nintendo ressortait des vieux jeux aussi. Que pensez-vous de la tendance du rétro gaming ?
Alors oui, c'est un bon point. En effet, il y a une grosse tendance sur le rétro gaming. On vient notamment d'annoncer le bilan 2017 en termes de chiffre d'affaires de l'industrie. Il y a 9% du chiffre d'affaires de vente de consoles en 2017 qui représente des ventes de consoles de rétro gaming. Alors ce qui est assez intéressant, c'est le côté nostalgique. C'est le fait de transmettre justement cette passion du jeu vidéo et de permettre à des parents, notamment qui ont grandi avec certains jeux, de les partager avec leurs enfants. Donc c'est extrêmement positif de voir justement cette volonté, ce côté nostalgique de rejouer à de vieux jeux.
Que pensez-vous de l'émergence du jeu vidéo indépendant ?
Alors le jeu vidéo indépendant fait partie intégrante du jeu vidéo, c'est pas un phénomène récent. Alors évidemment les nouvelles plateformes, notamment depuis la génération 7 de consoles, à savoir la Xbox 360, la PlayStation 3 notamment, ont laissé une part grandissante à la place du jeu indépendant. Aujourd'hui, on a un écosystème, en effet, qui est multiple dans l'industrie du jeu vidéo. On a à la fois des studios de petite taille, des grands studios, notamment certains qui appartiennent à des grands éditeurs. Donc, nous, on est toujours extrêmement positifs, justement, à avoir cette pluralité de propositions. Et on accueille notamment un festival indépendant autour de la Paris Games Week qui s'appelle Indiecade Europe, et qui accueille des indépendants du monde entier, notamment de l'Europe, et qui viennent présenter leurs projets. Donc, on a un regard extrêmement positif. Et l'intérêt du jeu vidéo, justement, qui est entre innovation technologique et création artistique, c'est justement cette expression artistique et de laisser différentes formes d'expression sur les différentes plateformes.
Comment voyez-vous l'industrie du jeu vidéo dans les prochaines années ?
On a une vision plutôt positive. Là, on a annoncé un chiffre d'affaires record, totalement historique, de 4,3 milliards. L'industrie est portée à la fois par ce qu'on appelle l'écosystème des consoles, mais également l'écosystème PC, et les mobiles. On a eu une année extrêmement soutenue en 2017, qui a été notamment portée par la sortie de nouvelles consoles. On a la Nintendo Switch qui est sortie en tout début 2017, également la Xbox One X en fin d'année dernière. Donc ça a vraiment tiré le marché. Et vous avez également des ventes très soutenues côté PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro. Il y a un phénomène cyclique assez vertueux dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'au fur et à mesure que le parc de consoles s'étend, qu'il y a des consoles qui se vendent sur le marché, évidemment, ça va soutenir ensuite les ventes de jeux, puis les ventes d'accessoires de consoles. Donc tout cela laisse à penser que ce cercle vertueux aura évidemment un effet très positif pour l'année 2018 et même pour les années à venir. Ça, c'est quand on fait un focus console. Et également, on a le jeu PC qui est extrêmement dynamique. on voit dans les ventes de PC, ce qu'on appelle les PC gaming, vraiment dédiés dans leur achat aux jeux vidéo. Pareil, ils ont réalisé une croissance de 10% cette année, vraiment portée par l'exigence des joueurs, portée par des tendances comme la tendance de l'e-sport. Et puis aussi le mobile porte extrêmement bien, qui a progressé de 22% en 2017. Donc on a un regard plutôt, sans avoir de chiffres à donner forcément sur ce que donnera l'année 2018, on pense qu'en effet, on aura encore une très belle croissance au niveau du chiffre d'affaires.
Est-ce que la réalité augmentée serait aussi l'avenir du jeu vidéo ?
Alors, il faut parler plutôt de réalité virtuelle et de réalité augmentée ou de ce qu'on appelle la mixed reality, qui sont en effet des technologies. Alors pour la réalité virtuelle qui aujourd'hui fait partie pleinement de l'offre proposée aux joueurs, sur la réalité augmentée c'est encore un peu expérimental ou s'adressant à un public de professionnels. Ce qui est intéressant de constater c'est que le jeu vidéo c'est vraiment le laboratoire des usages numériques. Vous n'avez pas d'autre meilleur moyen de démocratiser, d'installer une nouvelle technologie que via le jeu vidéo qui touche en effet des millions de joueurs. Donc aujourd'hui la réalité virtuelle il présente notamment avec PlayStation hein, qui a lancé il y a quelques temps PlayStation VR, qui est très satisfait de ses ventes et de ses résultats, qui propose de plus en plus de variétés de jeux et donc ça va tendre à vraiment se développer dans les années à venir. Les résultats côté PlayStation VR montrent justement qu'il y a une appétence des joueurs pour ces nouvelles technologies, pour ces innovations, pour ces nouvelles formes de jeux qui consacrent vraiment l'immersion. Et puis côté réalité augmentée, en effet, il faudra observer comment ça évolue. Aujourd'hui, on est plutôt encore sur des propositions faites dans le milieu professionnel. Mais évidemment, je pense que le jeu vidéo prendra sa pleine place dans l'avènement de cette nouvelle technologie.
Bah, je vous remercie pour cette interview.
Mais merci à vous.
Maintenant, laissons place à une pause musicale. Jump Up Superstar de Kate Higgins.
Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Jump up in the air, jump without a care, jump up 'cause you know that.
De retour sur les ondes de Studio ZEF, nous allons maintenant présenter la célèbre mascotte de Nintendo, Mario. Mario, reconnaissable grâce à sa salopette bleue et à sa casquette rouge avec le M inscrit dessus, a été créé par Shigeru Miyamoto en 1981. Ça fait plus de 30 ans que le célèbre plombier moustachu de Nintendo sauve des princesses en détresse, combat des méchants et fait des compétitions sportives en tout genre. Bien qu'il ait traversé les époques et les évolutions des consoles de jeux, l'histoire de Mario, c'est un peu aussi celle de Nintendo et plus largement celle du jeu vidéo. Pour mieux comprendre l'histoire de Mario, il faut revenir à ses débuts en 1981. C'est dans Donkey Kong, sorti sur des bornes d'arcade, que Mario fait sa première apparition en tant que personnage secondaire. À cette époque, Mario ne s'appelait pas Mario, mais Jumpman. Dans le jeu, le joueur prend le contrôle de Jumpman, doit sauter par-dessus des tonneaux et monter sur des échelles pour sauver Pauline, la première petite amie de Jumpman qui avait été enlevée par le gorille Donkey Kong. D'abord charpentier dans Donkey Kong, ce n'est qu'en 1983, lors de la sortie de Mario Bros. Sur des bornes d'arcade, que Mario deviendra plombier. Ce changement de métier s'explique par le fait que lui et son frère Luigi combattent des étranges créatures telles que les Koopas dans les égouts de New York. Nintendo décide de changer le nom de Jumpman pour celui de Mario en référence au propriétaire de Nintendo of America de l'époque, Mario Segali. En 1985, Nintendo sort Super Mario Bros., le premier jeu de la série de jeux vidéo Super Mario, sur sa première console de salon, la Nintendo NES. Le concept du jeu est très simple. Mario parcourt le royaume champignon, collecte des pièces et des bonus tels que les champignons ou encore les étoiles, et affronte des sous-boss à la fin de chaque niveau pour délivrer la princesse Peach qui a été capturée par Bowser, un méchant dragon. Le joueur contrôle Mario, mais peut aussi contrôler Luigi dans le mode multijoueur. Si sa principale mission est de sauver des princesses en détresse telles que Peach, Daisy ou encore Pauline, les missions de Mario ont tant qu'à elles évolué au fil des jeux. Libérer des royaumes, voyager à travers la galaxie, détruire des machines diaboliques et vaincre des méchants tels que Donkey Kong, Wario ou encore Bowser. Le scénario du jeu sera repris dans l'ensemble des jeux Super Mario et adapté sur chaque console de jeu Nintendo. Ce qui fait le succès des jeux Super Nintendo n'est pas le scénario en lui-même, mais les différents éléments que Nintendo ajoute dans chaque jeu. De nouveaux personnages tels que Yoshi ou encore Toad, de nouveaux pouvoirs tels que les costumes pour aller plus vite ou être invisible, ou encore les fleurs pour lancer des boules de feu. Les jeux les plus connus sont Super Mario Land sur Game Boy, Super Mario World sur la Super Nintendo, Super Mario 64 sur la Nintendo 64, Super Mario Sunshine sur GameCube, Super Mario Galaxy sur la Wii, ou encore Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Avec Mario, Nintendo a réussi à créer des jeux accessibles à tous grâce à des jeux fun et conviviaux tels que Super Mario, Mario Kart ou encore Mario Party. Mario possède de nombreuses cordes à son arc qu'il exploite dans différents types de jeux sur les consoles de Nintendo en mode multijoueur. Les jeux de course tels que la série Mario Kart en 1992, les jeux de Game Party tels que la série Mario Party en 1999, les jeux de combat tels que Super Smash Bros. En 1999, les jeux de sport tels que Mario Tennis en 2000 ou encore Mario et Sonic aux Jeux Olympiques en 2007 ou encore les jeux de stratégie tels que Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Bottom en août 2017. Maintenant, nous allons laisser place à notre chronique test, les Sims 4 sur console. 4 ans après les Sims 4 sur PC, le célèbre jeu de simulation de vie de Maxis et Electronic Arts, les Sims 4, est enfin arrivé sur les consoles PS4 et Xbox One, et ce n'est pas trop tôt. Pour le plus grand bonheur des joueurs, le gameplay est le même que dans les précédents jeux des Sims. Il n'y a pas de réelle histoire, c'est au joueur de créer sa propre histoire en fonction de ses envies. Le but du jeu est de gérer la vie des différents Sims, construire des maisons, se faire des amis, travailler, fonder une famille et bien d'autres choses encore. Fan des Sims de la première heure, j'avais pu jouer aux différents opus des Sims sur PC. Suite à l'annonce d'Electronic Arts de la sortie des Sims 4 sur console, j'étais impatiente de tester le jeu sur Xbox One et de voir les améliorations qui ont été faites entre la version PC et la version console. Après quelques heures de jeu, voici mes premières impressions. Je n'étais pas déçue du voyage. À vue d'œil, l'interface des Sims 4 sur Xbox One était la même que sur la version PC et voire même enrichie avec de nouveaux contenus, ce qui était une bonne surprise. Toute partie de Sims qui se doit passe par la case création de Sims. Comme sur PC, j'avais trouvé l'outil de création de Sims plutôt intuitif. En effet, on peut choisir le sexe, l'âge, la voix, la carrière ou encore les traits de caractère des Sims. Ce que j'ai également trouvé intéressant dans cet outil, c'était justement le fait de pouvoir modifier le visage, les yeux, la peau et le corps selon ses envies. De plus, la garde-robe est très variée avec des vêtements, des accessoires en tout genre et voire même des costumes de Star Wars. Il nous reste plus qu'à lancer la partie. Comme dans la version PC, j'ai dû choisir l'endroit où je souhaitais vivre parmi trois quartiers distincts. Willow Creek, Oasis Spring et New Christ. J'avais pu constater qu'il n'y avait plus de monde ouvert. Les terrains étaient beaucoup plus petits et moins nombreux que dans les précédents jeux des Sims. J'ai trouvé ça dommage car j'aimais beaucoup construire des grandes maisons dans le jeu, mais aussi le fait de pouvoir aller à la plage en un temps record sans passer par des temps de chargement qui étaient parfois très longs, mais qui peuvent aussi faire bugger le jeu au passage. Comme sur la version PC, les émotions sont toujours au cœur du jeu. Je trouve ça cool de voir son Sim s'énerver lorsqu'il n'arrive pas à faire une action, mais aussi le fait de le voir changer d'humeur, par exemple de passer d'heureux à triste. Ce qui rend les Sims plus réalistes et plus attachants. J'étais contente de voir que les développeurs aient tenu compte des avis et des remarques des fans en rajoutant les contenus manquants de la version PC sur console. Les bambins, les piscines, les fantômes et bien d'autres choses encore. Pour le moment, toujours pas de véhicule et de vélo en vue, chose curieuse pour une simulation de vie. Peut-être que nous les verrons un jour. Mais là où ça se gâte, c'est quand il faut utiliser une manette et non pas un clavier et une souris pour jouer. Habitué à jouer aux Sims sur PC, le passage du clavier-souris à la manette m'a paru compliqué au départ. Premièrement, il a fallu que je trouve les bonnes commandes pour faire mon action. Par exemple, il m'est arrivé au moment de choisir les traits de caractère d'un de mes Sims, de vouloir accéder à l'ensemble des traits de caractère disponibles. Bien qu'il y ait un didacticiel avec différentes astuces, j'ai galéré un bon moment avant de trouver la bonne commande. En réalité, il fallait appuyer sur la touche RB pour la Xbox One. Deuxièmement, l'interface du jeu n'est pas très ergonomique et pas totalement pensée pour la manette. Par exemple, il m'est arrivé pour déplacer un meuble qu'il fallait fermer les deux ou trois dernières fenêtres ouvertes à l'aide du bouton B, puis cliquer sur le mode sélection, puis déplacer son meuble, puis rappuyer sur A. Toutes ces manipulations sont pénibles à la longue, mais on s'y fait avec le temps. Au final, il m'a fallu un temps d'adaptation pour bien savoir utiliser toutes les commandes, et après, ça passe tout seul. Mais le plus gros problème des Sims, selon moi, reste celui des bugs d'affichage. Par exemple, il m'est arrivé au bout de 25 minutes de jeu, au moment de créer mes Sims, que le jeu se mette soudainement à bugger. Le curseur partait dans tous les sens. Il affichait les traits de caractère et les chaussures en même temps, alors que je ne lui avais pas demandé de le faire. Du coup, impossible de reprendre la main dessus. J'étais bien tenté plusieurs fois d'appuyer sur les différents boutons de la manette, de vouloir éteindre et rallumer la console. Il a fallu attendre une vingtaine de minutes à peu près avant que tout redevienne à la normale et de pouvoir reprendre le contrôle du jeu comme si de rien n'était. C'est selon moi un point sur lequel les développeurs auraient pu quand même corriger avant de sortir le jeu. Pour faire bref, les Sims 4 sur console est pour moi une version enrichie et fidèle à la version PC. C'est vrai qu'au départ, le passage du clavier-souris à la manette était compliqué, mais on s'adapte vite avec le temps. Toutefois, le jeu comporte des points négatifs tels que les bugs d'affichage dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'absence de galerie dans laquelle on peut partager ses créations avec différents joueurs, mais aussi le fait que les contenus additionnels soient vendus à des prix élevés. Hormis cela, le jeu reste agréable et fun à jouer. Si vous avez la version PC, passez votre chemin. Sinon, si comme moi, vous n'avez plus de PC mais uniquement une console, dans ces cas-là, je vous le conseille vivement. Je vous laisse donc juger par vous-même et créer vos propres histoires de Sims. C'est ainsi que s'achève cette émission consacrée à l'univers du jeu vidéo. Ces différentes rubriques nous ont permis de comprendre ce qui était le jeu vidéo et ses évolutions majeures. Nous remercions Madame Montadier du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs d'avoir accepté notre demande d'interview. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve très bientôt pour une autre émission sur Studio Zef. L'émission que vous venez d'écouter est disponible en podcast sur studiozef.fr. Enjoy Orange, émission jeunesse de découverte sur Studio Zef.